cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 1er mai 1986.
Celui qui voudrait m'en faire la recension. essayer d'entrer dans ce que représente le point de vue de l'éducation par rapport à la famille. C'est un des aspects essentiels, l'éducation liée à la famille. Et comprendre ce que ça veut dire, ce que ça représente. Autrement dit, un aspect connaissance et qu'au point de vue politique, on ne peut pas se désintéresser de la païdéia. Il y a un très bon livre de Marot sur la païdéia en Grèce. C'est le meilleur livre. Et qui est très bien fait parce qu'il montre bien que c'est une préoccupation politique. C'est compréhensible, ces espèces d'appel, si vous voulez, qui veulent avoir comme une espèce de responsabilité sur l'enfant. Donc il y a un droit naturel des parents à la première éducation. Et quand je dis la première éducation, c'est l'éducation jusqu'au moment où l'enfant est capable de choisir. Donc au point de vue éducation, ça c'est très net. Et comme l'instruction est liée à la première éducation, on comprend très bien que la première instruction est liée à l'éducation. C'est inséparable. On ne peut pas séparer les deux. Quand vous faites une classe maternelle, l'aspect enseignement et l'aspect éducation se tiennent. On ne peut pas séparer. C'est pour ça que quelqu'un qui est communiste et qui enseigne dans une classe maternelle, il y a quelque chose de sa doctrine et ses idéologies qui passent. Quelqu'un qui est chrétien, il y a quelque chose de son christianisme qui passe. Ça ne peut pas être autrement. Tandis que quelqu'un qui enseigne les mathématiques dans les écoles supérieures, son point de vue philosophique ou ses options philosophiques normalement ne passent pas. Je dis normalement, parce que la science est en dehors du point de vue confessionnel. La science est indépendante du point de vue moral. Alors ça c'est très intéressant parce que ça montre que plus l'instruction est poussée, plus elle quitte la famille, plus elle relève de l'État. Et alors le partage entre les deux, vous comprenez, est extrêmement difficile. À préciser, le partage entre les deux est très difficile puisque de fait, on ne peut pas préciser avec exactitude à quel moment ce partage peut se faire entre le point de vue de l'éducation et le climat de l'éducation et à l'intérieur de l'éducation, le point de vue de l'instruction. On ne peut pas faire la séparation. Pas dire, mais on peut voir progressivement. Mais on peut dire qu'à partir de certaines études supérieures, à ce moment-là, de fait, la communication de la science peut se faire indépendamment de l'éducation. Alors vous voyez, là il y a un soubassement extrêmement intéressant à étudier au point de vue philosophique. C'est de voir que l'éducation, toute éducation, est ordonnée à l'acquisition des vertus. Dans le stoïcisme, dans le platonisme, dans l'aristotélisme, c'est ordonné à l'acquisition des vertus. Je crois qu'il n'y a que dans l'épicurisme dire que l'éducation n'est pas ordonnée à la vertu. Elle est ordonnée à l'art. L'art de jouir le plus. Okay ? C'est pas ordonné directement à la vertu. La maîtrise de soi, qui est la grande vertu stoïcienne, en quelque sorte, étouffe toutes les autres vertus. Passions sont mauvaises et donc ne demandent pas d'être éduquées, elles demandent d'être rejetées. Alors, la maîtrise de soi va pouvoir impliquer la justice est présente dans le stoïcisme, la prudence, au fond les vertus cardinales. C'est du reste très intéressant, alors ça on peut le noter, que je crois l'œcuménisme philosophique revient aux vertus cardinales. Je crois que tout système philosophique ou tout aspect philosophique qui étudie une éthique accepte les vertus cardinales. évidemment selon une synthèse particulière, et pas tout à fait la même que pour nous, puisque la finalité n'est pas la même. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai fait une petite enquête là-dessus. Au point de vue éthique, bien que j'ai vu qu'il y avait ce fait. Aucun philosophe n'a rejeté les vertus cardinales. Il peut très bien ne pas en parler, mais ne les rejette pas. Je crois pouvoir affirmer ça. Que, au fond, les vertus cardinales représentent ce qu'il y a de commun dans toute la diversité des philosophies. C'est intéressant parce que ça prouve qu'il y a un noyau humain qu'on ne rejette pas et qu'on est obligé de reconnaître. Ce noyau des vertus cardinales, le fond, l'éducation commune, si vous voulez, le tronc commun de toute éducation, l'éducation laïque, comme on dit en France, l'éducation chrétienne, c'est les vertus cardinales. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Alors avec des bémols, vous comprenez pour la tempérance, avec des bémols. Pour la prudence, avec des bémols. Mais le nom de s'il y a autorité. S'il n'y a plus d'autorité, il n'y a pas d'éducation. Et l'autorité dans la famille, c'est d'abord le père. Et avec le père, c'est la mère. Il peut pas, l'enfant ne peut pas guérir des vertus sans coopérer à l'autorité paternelle et maternelle. Et donc, s'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus acquisition de vertus. Et s'il n'y a plus acquisition de vertus, il n'y a plus éducation. Doit se refaire aujourd'hui. Et vous vis-à-vis que c'est un secteur auquel on tient beaucoup, puisqu'il y a le secteur Saint-Jean Éducation. Et donc il faut que nous réfléchissions là-dessus. Et je crois que ce serait très bien qu'on ouvre un, vous voyez, pour nous, un secteur de recherche sur le point de vue de l'éducation. Qu'on se pose la question, est-ce que la philosophie libérale de John Locke, est-ce qu'elle maintenait encore l'éducation? Faut-il remonter jusque-là pour voir le grand coup porté à l'éducation? C'est une question historique qu'il faut se poser, qu'il faut essayer de résoudre. Parce que c'est pas si commode que ça, et c'est très important, parce que je crois que c'est à partir de là qu'il y a comme une fragilité. La famille ne fait plus son œuvre propre, qui est l'éducation. La famille se ramènera à l'aspect d'engendrer des individus. Et progressivement, la technique et la science lui enlèvent même cela. De sorte que la famille n'a plus de raison d'être. Le premier grand coup porté à la famille, c'est la suppression de l'éducation. Alors il faudrait se poser la question si avant les soviets, le libéralisme ne supprimait pas ça. Parce que c'est très difficile de sauvegarder l'éducation quand vous mettez le primat sur la liberté. L'éducation ne peut se faire que quand on découvre la finalité. Quand il y a un primat sur la liberté, comme dans la philosophie du libéralisme, ben, distinguez toujours bien le libéralisme économique et la philosophie du libéralisme. Ce qui est terrible, c'est que c'est le même mot. Alors, il y a des tonnes d'équivoques. Mais je crois que c'est très très important aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Bien distinguer les deux. L'Église a condamné la philosophie libérale, le libéralisme absolu de John Locke, tandis que le libéralisme économique n'est pas condamné. Et c'est important de comprendre la différence. Et donc il faut se poser la question, posez-vous la question, c'est intéressant frère, de se poser la question à quel moment l'éducation a-t-elle été comme supprimer la famille, alors que c'est l'œuvre propre de la famille. Et quand vous supprimez l'œuvre propre, vous supprimez la réalité, parce que vous lui enlevez son but immédiat. Alors, comprenez, à partir de là, si on veut faire une philosophie de l'éducation, il faut comprendre qu'elle repose sur la finalité de l'homme. Je ne peux éduquer qu'en comprenant ce qu'est la personne humaine. Ce qu'est la personne humaine. Puisque toute l'éducation est ordonnée à cela. Faire du petit enfant une personne. Donc, toute éducation va impliquer une éthique. En premier lieu. Toute éducation va impliquer l'acquisition des vertus en vue d'atteindre la fin. Toute éducation implique l'autorité pour coopérer et aider. Et l'autorité repose fondamentalement sur le point de vue de la prudence. Seul l'homme prudent a autorité dans l'ordre moral, dans l'ordre de l'éducation. Un homme très intelligent mais imprudent n'a aucune autorité dans l'ordre de l'éducation. Il n'a pas le droit d'éduquer. On ne peut éduquer que celui qui, justement, a cette capacité d'ordonner les moyens à la fin. Ce qui est la prudence. Vous voyez, je crois que ce sont les différents éléments de l'éducation. ces éléments doivent se trouver normalement quand il s'agit d'une véritable éducation. Vous voyez donc là, immédiatement, que dans l'éducation intervient la finalité. Et donc, si on a affaire à une famille chrétienne, l'éducation est chrétienne. Il n'y a pas d'éducation neutre. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est, je crois, la grande erreur de ce qu'on appelle l'école laïque. Parce que l'éducation est nécessairement finalisée. Ça, il faut le saisir, il faut le comprendre. Et on a le droit de se battre pour ça. Parce que c'est la survie de l'espèce. Mais le droit est quelquefois le devoir. Parce que des parents qui ont des enfants n'ont pas le droit de livrer leurs enfants à n'importe quelle idéologie. Ils ont le devoir de permettre à leurs enfants de pouvoir être pleinement ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire une personne humaine. Alors vous voyez, c'est là où naissent tous les conflits. C'est très beau la neutralité, c'est très beau de rien dire, mais quand il s'agit des enfants. Et vous savez, on doit tout rappeler ça. Et la philosophie le dit alors, a fortiori quand il s'agit du point de vue chrétien. Et déjà un point de vue purement philosophique. On n'a pas le droit de livrer des petits incapables de s'effondrer, incapables de comprendre à quelque chose qui n'est pas vraiment humain. Alors, ne peut être qu'humain que lorsqu'il y a une finalité. Oui, c'est pour ça que l'éducation est liée essentiellement à une éthique. Il ne peut pas être autrement. C'est au fond la communication de l'éthique. C'est l'éducation, c'est permettre à un être de pouvoir atteindre sa taille au plan moral. C'est le propre de l'éducation. L'éducation va impliquer en plus un milieu de vie. Après l'autorité, le milieu de vie. S'il n'y a pas un milieu de vie, on ne peut pas éduquer. Impossible. C'est aussi très important, parce que vous voyez, ça permet de réclamer une école conforme à la finalité qu'on veut. Parce que le milieu de vie, c'est une communauté. Et on ne peut pas éduquer sans un milieu de vie. Ça, je crois aussi, c'est très important à se le rappeler. Et c'est vrai pour la première éducation. Un milieu de vie qui est d'abord la famille et ensuite l'école. Et l'école, le prolongement du milieu de vie, la famille. Et les professeurs n'ont d'autorité que dans la mesure où ils sont en harmonie avec l'autorité des parents. Ils n'ont pas d'autorité directe. Leur autorité vient de l'État. Mais l'État n'a pas d'autorité directe sur la finalité. L'État peut les payer. Ça fait partie du pouvoir de l'État, mais pas l'autorité. C'est pour ça que l'autorité des maîtres à tous les échelons, mais surtout pour les écoles d'enfants, provient de la famille. Je crois qu'arriver à un certain développement intellectuel, l'autorité d'un mathématicien, d'un professeur de mathématiques aux écoles normales ne dépend pas des parents. Ça dépend de la compétence de ces hommes. Alors vous voyez, c'est là où on touche quelque chose qui est très important en philosophie politique. préciser quels sont les domaines où il y a acquisition d'habitus. Ça, je crois que c'est directement la philosophie de l'enseignement et la philosophie de l'éducation. Au plan de philosophie, on doit se poser tout de suite la question: quel est le fruit de l'enseignement? Quel est le fruit de l'éducation? Le fruit propre de l'éducation, c'est l'acquisition des vertus et des vertus cardinales. Le fruit propre de l'enseignement, c'est l'acquisition des habitus. Alors, quels sont les domaines dans lesquels il y a des habitus intellectuels? Faites vous-même cette petite enquête. C'est très intéressant à faire. Quand il n'y a pas d'habitus, il y a des disciplines. C'est le degré inférieur. Des disciplines, des méthodes. Quand il y a un habitus, il n'y a pas besoin de méthode. Mais quand il n'y a pas d'habitus, il y a besoin de méthode. Alors, est-ce que la méthode, l'acquisition d'une méthode, suffit à légitimer un enseignement? Est-ce qu'une méthode forme un homme ou forme un fonctionnaire? Est-ce que le fonctionnaire est un homme comme fonctionnaire? Est-ce que ça qualifie l'homme?